VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Burundi, le procureur de la République vient de donner les principales conclusions de la commission d'enquête sur la mort de plus d'une centaine de personnes dans certains quartiers contestataires de la capitale Bujumbura les 11 et 12 décembre 2015. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le 11 décembre 2015, Bujumbura dormit sous les coups d'armes automatiques et d'explosions de grenades après l'attaque de quatre camps militaires dans les provinces de Bujumbura et Bujumbura Oural, selon un rapport que le procureur général de la République vient de rendre public ce jeudi. Ce dernier affirme que des combattants d'un groupe armé non encore identifié se sont alors rendus dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les forces de défense et de sécurité, en poursuivant ces combattants en tenue militaire et policière, ont tué 87 personnes, dont 4 militaires, 4 policiers et 79 combattants. Le procureur général de la République confirme que ceux qui n'ont pas été identifiés ont été enterrés dans les cimetières de Kanyo Chaimpanda pour des raisons de salubrité. Mais 87 autres assaillants sont aujourd'hui incarcérés dans la prison de Muramvya au centre du Burundi. Cependant, observe le procureur général de la République, 7 combattants ont été retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Un dossier répressif a déjà été ouvert. Toutes les allégations en faisant état de fosses communes où auraient été enterrées les personnes tuées le 11 décembre 2015, comme l'affirme certaines ONG internationales, ne sont pas fondées, selon toujours le procureur général de la République. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC voisine, 7 leaders politiques des transfuges de la majorité passée à l'opposition au président Joseph Kabila en septembre se sont rangés en ordre de bataille derrière l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi. Réunie à Lubumbashi, cette plateforme, le G7, insiste pour que la présidentielle ait lieu en 2016, comme le veut la Constitution nationale. Edi Sango a joint par téléphone l'un des 7 leaders en question, Christophe Lutundula.
Le gouverneur Moïse Katumbi ne s'est pas encore déclaré candidat à quelque mandat que ce soit. Pour nous, le jour où il va se déclarer candidat, il peut compter sur le G7. Il n'y a aucune raison objective et qui peut faire qu'il ne puisse pas compter sur nous. Dès lors que nous menons le même combat, que nous avons une identité de vue et une identité des valeurs et des objectifs.
Christophe Lutundula, un des 7 leaders de la plateforme G7. Afrique de l'Ouest maintenant, Gambie, 3 organisations de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, le Comité pour la protection des journalistes et Human Rights Watch, exigent la libération du journaliste gambien Alhaji Cissé, directeur de la radio privée Teranga FM. Il est détenu depuis juillet 2015 par les services de sécurité gambiens. Les explications de Stephen Cockburn d'Amnesty International à Dakar.
Il était détenu en juillet 2015 par les agents de renseignement. Il n'avait pas accès à sa famille, il n'avait pas accès à son avocat. Et il était inculpé pour une charge de la sédition et aussi pour d'avoir publié les fausses nouvelles. Il est en détention maintenant pendant plus de 8 mois en attendant son procès. Et son état de santé est en train de détériorer. Il a été hospitalisé 2 fois ces derniers 2 mois. Et nous nous inquiétons que pour sa santé, mais aussi pour les allégations de torture qui ont été faites. Nous demandons aux autorités gambiennes de le libérer et de s'assurer qu'il peut continuer à avoir accès au traitement médical.
Stephen Cockburn d'Amnesty International à Dakar. Relations entre le Nigeria et l'Afrique du Sud maintenant. Le président sud-africain Jacob Zuma a mené une mission délicate cette semaine lors de sa visite officielle au Nigeria. Renouer les liens considérablement dégradés ces dernières années entre les deux plus grandes puissances économiques du continent africain. Des détails avec Michel Joseph.
La compétition économique est le principal ressort de la tension des relations entre les deux géants africains. Et l'arrivée de l'inflexible Muhammadu Buhari à la tête de l'État d'Afrique de l'Ouest en mai dernier ne semble pas vraiment avoir changé la donne. Devenue depuis avril 2014 la première puissance économique du continent grâce à une nouvelle méthode de calcul de son PIB, le Nigeria est davantage un concurrent qu'un partenaire pour l'Afrique du Sud. 120 entreprises sud-africaines sont implantées au Nigeria, qui n'est que le 7e partenaire économique de Pretoria sur le continent. La visite de Jacob Zuma s'est donc inscrite dans une volonté de changement pour les deux pays qui vivent une période économique difficile. L'Afrique du Sud est minée par le ralentissement de la croissance chinoise et la chute du cours des matières premières, tandis que le Nigeria souffre de la baisse du cours du pétrole, dont il est le premier producteur africain. À l'issue de sa visite, le président Zuma a ainsi annoncé que plus de 30 accords bilatéraux avaient été signés.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Alors que la crise migratoire perdure en Europe, les Africains sont toujours aussi nombreux à tenter de rejoindre le vieux continent. Beaucoup d'entre eux passent par la Libye et le Niger est souvent la dernière étape avec Agadez avant de passer la frontière libyenne. L'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger, Nicolas Pineau, a rencontré à Niamey ceux qui ont renoncé à l'Europe et qui tentent de rentrer chez eux. Son reportage.
Dans l'enceinte de la paroisse Saint-Gabriel de Garbado, à Niamey, ils sont une dizaine à être venus recevoir de l'aide de la part de la mission catholique. Tous ont tenté le rêve européen, mais ont échoué en Libye ou au Maroc. À court d'argent et plein de désillusions, ces Africains ont décidé de rebrousser chemin. Avec ses locks et son bandana sur la tête, Henri a quitté Yaoundé en 2014. 2 ans de galère, mais il affirme ne rien regretter.
Ouais, déjà, j'ai eu soif d'aventure, j'ai voulu découvrir de nouvelles terres et pourquoi pas, j'ai tenté aussi d'aller de l'autre côté de l'Europe, comme tout Africain qui en rêve. Ouais. Pour étranger, j'ai perdu des sous que j'avais plus rien. Et alors j'ai fait un retour en Algérie. En Algérie, j'ai séjourné un petit peu, quelques mois, et après je suis redescendu, une fois que j'ai compris la réalité.
Beaucoup ont dépensé des centaines d'euros pour tenter l'aventure. Stéphane a tout quitté à Douala, sa femme, sa fille et son petit commerce. Il garde un goût amer et les stigmates de son passage au Niger.
J'ai rencontré pas mal de difficultés, surtout avec la police nigérienne, parce que là-bas, ils ne sont pas vraiment humains, quoi. C'était entre Maradi et Agadez. Ils m'ont dépouillé et puis ils m'ont abandonné dans le désert. J'ai parcouru à pied plus de 36 km avant de rejoindre la ville.
Tous décrivent cette même violence de la part des passeurs, des différentes polices et de tous ceux qui font de l'argent sur le dos des migrants. Il y a aussi les abus nombreux, notamment les viols que subissent les femmes. Rachel était coiffeuse à Douala. Elle reste traumatisée par son agression à Oran, en Algérie.
J'ai compris que ça arrive, dans tous les pays ça arrive. La violence peut sortir en pleine journée, en rentrant, et t'agresse. Le grave problème qui est là-bas, c'est que si un Algérien t'agresse même devant 100 Algériennes, personne n'y riposte. On lui laisse, il fait ce qu'il a fait et il part. Que toute femme qui veut prendre la route soit seulement courageuse et forte.
Ces tristes récits, Laurentine Dano en a vu des centaines. Il est volontaire pour aider ces migrants à rentrer chez eux, mais refuse de les aider s'ils s'entêtent à vouloir gagner l'Europe.
Ceux qui traversent ici et qui vont au désert, qui veulent aller en Libye et qui veulent, la finalité, c'est de traverser, aller en Italie. Nous ne pouvons pas les aider parce que s'il advenait que notre appui aide quelqu'un à aller au désert et meurt, l'Église aura envoyé les gens à la mort. Or, ce n'est pas sa vocation.
Avec son t-shirt jaune et ses yeux d'enfant, George espère rentrer vite au Liberia. Il a vendu il y a 6 mois sa moto pour partir, un choix qu'il regrette.
Vous savez, ceux qui sont déjà en Italie envoient des photos, nous disent que c'est beau là-bas, qu'il faut les rejoindre. C'est donc par pure pression que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour partir. En fait, cet argent, j'aurais dû mieux l'utiliser au Liberia. On est en Afrique, on a tout.
En 2015, 130 000 migrants ont réussi à gagner l'Italie en traversant la Méditerranée. Au moins 3 771 ont perdu la vie, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Nicolas Pineau, Niamey, VOA Afrique.
L'actualité hors d'Afrique, en Birmanie, l'ex-opposante birmane Aung San Suu Kyi ne sera pas présidente de son pays. Après des mois d'attente, elle a finalement révélé le nom de celui qu'elle souhaite voir à la position de président, un poste qui lui est interdit par un article de la Constitution hérité de la junte. Il s'agit de Htin Kyaw Amy, qui est un ami d'enfance et confident de la lauréate du prix Nobel de la paix. Jamais élu, cet homme de 69 ans était présent aux côtés d'Aung San Suu Kyi à sa libération en novembre 2010, lorsqu'elle a adressé ses premiers mots à la foule devant sa maison. Et pour terminer, au Liban, un soldat libanais et 8 hommes armés ont été tués aujourd'hui dans des combats entre l'armée libanaise et des djihadistes dans le nord-est du pays, près de Ras Baalbek. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.